pour passer au temps d'échange numéro 2. Et on va commencer par des questions qui ont été posées via l'outil Slido. On a beaucoup de questions qui ont été posées, donc aujourd'hui c'est une certitude, on ne pourra pas y répondre à toutes ces questions en séance, et donc elles feront l'objet d'une, comme je vous le disais en début de réunion, d'une réponse par écrit sur le site du projet de réaménagement de l'aéroport. On va vous remettre le lien vers le site dans le chat qui est sur l'application Zoom, et on vous le représentera en fin de réunion. Voilà, donc première question, je vais vous les lire intégralement. Ensuite, je vous laisserai à nouveau choisir dans quel ordre vous souhaitez répondre. Première question, concernant le bruit, pourquoi continuer à utiliser le LDEN comme indice de mesure alors que l'on sait que c'est le bruit maximum qui impacte les populations? À titre personnel, dans une zone LDEN à 45 décibels, j'imagine, je mesure des volumes supérieurs à plus de 80 décibels lors du passage des avions. Première question. Deuxième question. Le couvre-feu permettra-t-il de ne pas avoir de décollage ni d'atterrissage entre minuit et 6 heures du matin? Actuellement, les avions atterrissent tout de même car leur base est sur l'aéroport. Et à partir de 6 heures, les décollages seront-ils étalés? Car en 2020, on comptait 17 décollages en une heure de 6 heures à 7 heures du matin. Autre question d'Eric. Pourquoi ne pas plafonner les hypothèses de trafic? Donc j'imagine peut-être pourquoi ne pas plafonner le trafic. Les nuisances de tout ordre seront mécaniquement plus importantes si le trafic est plus intense. Voilà. Dernière question d'André. Vous dites vouloir réduire les nuisances sonores et en même temps doubler le trafic en 2040. En pratique et factuellement, comment est-ce possible? Si c'est en di diffusant les trajectoires pour réduire les pics de bruit et la moyenne, ce n'est dans ce cas qu'un calcul théorique. Expliquer un peu, voilà, expliquer précisément. Donc, on a deux dernières questions plutôt sur le trafic et les hypothèses de trafic et l'impact sur le bruit. Et une question sur les LDEN et enfin l'indice LDEN et une question sur le couvre-feu et les décollages le matin.
Je vous propose de commencer par répondre à la dernière question. On ne doublera pas le trafic en 2040. Hein. Aujourd'hui, enfin, avant la crise en 2019, on était à 7,2 millions de passagers et on aura en 2040 entre 10 et 11 millions de passagers. Alors après, effectivement, en termes de mouvement, je n'ai plus les chiffres sous les yeux, mais on vous l'a expliqué tout à l'heure, mon collègue Kevin Guittet vous l'a expliqué. Les évolutions proportionnellement ne sont pas les mêmes. Mais en réalité, le bruit croîtra, oui, on ne peut pas dire le contraire, parce que le trafic croîtra. Mais ce qu'on vous dit, c'est que l'ensemble des mesures que nous avons prévues permettent de maîtriser cette évolution du bruit et d'améliorer la situation par rapport à ce qu'elle aurait été sans réalisation du projet. Alors, je vois plus la question. Oui, c'est bien celle qui est. Donc voilà,
La toute
c'est pas.
première.
Mais voilà, c'est la toute première. Merci. Donc voilà ce qu'on peut en dire. Peut-être en complément, l'État aujourd'hui a mis un certain nombre de mesures. Hein, on le disait, des mesures d'exploitation, des mesures opérationnelles, des mesures d'infrastructure. C'est ce que nous avons pu imaginer pour maîtriser l'évolution du bruit dans notre champ de compétences. Et on attend aussi du futur concessionnaire et aujourd'hui des candidats à cette future concession qu'ils fassent part de propositions pour améliorer aussi ce dispositif global que nous avons prévu. Il y a des mesures qui relèvent du savoir-faire d'un exploitant qui permettent d'inciter les compagnies aériennes à utiliser des procédures de moindre bruit. Il peut y avoir des mesures d'exploitation, ou plutôt des incitations tarifaires à ce que le trafic soit plutôt orienté sur des plages horaires où on sait qu'il gêne moins les riverains et les populations survolées. Donc tout ce savoir-faire-là, c'est aussi l'exploitant qui le déploiera et qui complétera les mesures que nous avons prévues. Alors ensuite, sur l'indice LDN, pourquoi continuer à utiliser le LDN comme indice de mesure? Aujourd'hui, ce qu'on vous présente, ce sont de premières études sur les effets du bruit de manière comment dire, générale à l'échelle du territoire de la métropole. Et donc, pour ce type d'études, nous avons retenu l'indice LDN parce que c'est celui qui est le mieux adapté pour des prévisions de long terme et à cette échelle-là. Alors, bien sûr, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est on est dans le cadre d'une réunion publique d'information, et on n'est pas dans le cadre d'une enquête publique. Il y aura demain des enquêtes publiques pour la modification des trajectoires. Et là, lors de cette enquête, toutes les mesures du bruit toutes les études de bruit auront été réalisées. Et en particulier, elles comporteront toutes les informations sur ce que nous appelons les émergences et que signale monsieur, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des niveaux de bruit forts qui ponctuellement surviennent quand il y a un avion qui passe, concrètement. Et donc, on a des indices de bruit qui permettent de mieux représenter le bruit perçu par l'oreille humaine et pas concrètement par les habitants, plutôt que cet indice moyenné. Après, dans les évaluations globales, et aujourd'hui on en est à ce stade-là, l'indice LDN est mieux adapté. De toute façon, aujourd'hui, nous ne disposons pas de ces études sur les émergences. Elles seront réalisées plus tard. C'est pour ça qu'on ne vous les a pas présentées, tout simplement parce que nous ne les avons pas. Sur les hypothèses de trafic, pourquoi ne pas plafonner les hypothèses de trafic? Les nuisances de tous ordres seront mécaniquement plus importantes si le trafic est plus intense. Je pense que d'une certaine manière, au travers des deux réponses précédentes, je viens d'y répondre. Le trafic, certes, augmentera de manière moindre que ce que nous avions anticipé. On vous a présenté nos hypothèses révisées. Et après, nous avons prévu des mesures qui permettent de mitiger, de limiter les nuisances sonores qui en découlent. Sur le couvre-feu, le couvre-feu ne permettra de ne pas avoir de décollage ni d'atterrissage de minuit à 6 heures. Oui, c'est bien le cas. Le couvre-feu est un couvre-feu qui pose comme règle générale qu'entre minuit et 6 heures du matin, il n'y a pas de décollage et il n'y a pas d'atterrissage des avions. Ce qui est prévu toutefois, c'est qu'en cas de circonstances exceptionnelles, ou en tout cas de raisons indépendantes de la volonté de la compagnie aérienne, à ce moment-là, il puisse y avoir un atterrissage. Et cette notion-là est uniquement dans ce cas-là. Cette notion, elle renvoie à des cas qui sont fixés par le droit communautaire, enfin le droit de l'Union européenne. Et typiquement, lorsqu'il y a une grève importante du contrôle aérien, ça peut induire un retard. Et à ce moment-là, un avion, c'est manifestement hors du contrôle de la compagnie aérienne. Mais hormis donc ces cas qui sont assez... C'est précisément défini par le droit européen. Il ne sera pas possible d'atterrir entre minuit et 6 heures du matin. Donc ça, c'est pour la période de couvre-feu. Les seuls vols qui sont exemptés par principe du couvre-feu, ce sont les vols d'urgence liés à une urgence sanitaire. Et on voit bien qu'un aéroport, en cas de crise sanitaire, ça joue aussi une fonction pour la gestion de la crise. Les vols aussi qui sont en situation d'urgence pour une raison de sécurité ou de sûreté. Sûreté, c'est par exemple un acte de terrorisme. Voilà, donc on est vraiment sur des exceptions qui sont précisément encadrées et qui, en pratique, sauf période de crise majeure, mais correspondent à des occurrences faibles. Alors ensuite, il y a une question dans cette même question, il y a une deuxième partie sur la plage horaire de 6h à 7h. Aujourd'hui, le couvre-feu, il ne prévoit pas d'interdiction de décoller ou d'atterrir entre 6h et 7h. Le consensus qui avait été établi à l'issue de la concertation de 2019 et qui était un consensus y compris parmi les élus, était d'avoir un couvre-feu entre minuit et 6h. Cependant, lorsqu'on a soumis le projet d'arrêté correspondant à sa couvre-feu à la consultation de la commission consultative de l'environnement, on a vu que il y avait un certain nombre de demandes, d'attentes qu'on puisse réétudier cette question. Ultérieurement. Donc, l'État a pris l'engagement à l'occasion donc, du prochain plan de prévention du bruit dans l'environnement de Nantes Atlantique de réétudier la question de la plage horaire 6h-7h. Voilà. Voilà ce que je pouvais, vous indiquer en élément de réponse.
Monsieur Lacorche, je crois que sur cette question, il y avait aussi peut-être une notion de se dire que du fait qu'il y a un couvre-feu, ça va décaler les décollages sur une plage horaire assez courte et donc peut-être amplifier l'effet entre oui. 6h et 7h.
Effectivement, alors merci de me l'avoir rappelé. Sur ce point-là, je laisserai peut-être mon collègue Kevin Guittet vous répondre. Donc sur la question de savoir si l'application du couvre-feu conduit à une baisse du trafic ou à un report de tous les vols qui se passent la nuit pendant les heures de jour.
Oui, merci Johan. Le couvre-feu conduit aussi à des annulations de vols. Tous les vols ne peuvent pas être reprogrammés. Lorsque les compagnies aériennes, il y a de nombreuses compagnies aériennes s'appuient en fait sur des horaires assez larges et elles cherchent à maximiser la période d'opération de leurs avions pour baisser leurs coûts en fait, tout simplement. Et donc quand ça devient trop contraignant, elles préfèrent déprogrammer des vols. Et elles sont dans l'impossibilité de les reprogrammer dans la journée. Et on peut même avoir, on a des risques de débasage partiel d'avions dans le cas de couvre-feu qui serait trop important, justement parce que les compagnies perdraient de la rentabilité en fait en pouvant moins exploiter les avions. Donc on a du fait du couvre-feu une baisse de trafic.
Merci Kéra.
Merci beaucoup. On va prendre des questions qui ont été posées. Il y a des mains levées. Bon, monsieur Volmer à nouveau. Et monsieur Hénave, je vous laisse lever la main à nouveau. Si vous voulez à nouveau poser une question, vous leviez la main lors de la précédente séquence. Donc, je vous laisse me dire si vous voulez à nouveau prendre la parole. Monsieur Volmer, je vous laisse réactiver votre micro et poser votre question.
Oui, merci. Moi, je voudrais revenir sur l'aspect environnemental des choses. Mon information est bonne, le prolongement de la piste de l'ordre de 400 mètres empiéterait sur une zone classée Natura 2000. Aujourd'hui, on a du mal à comprendre comment, dans un contexte où il faut préserver au maximum l'environnement, un aménagement d'aéroport puisse outrepasser cette réglementation Natura 2000.
Alors, monsieur, je pense que si c'était le cas, effectivement, je vous rejoindrais complètement et j'aurais du mal à comprendre qu'on puisse envisager une telle chose. Non, pour être clair, le projet ne peut pas porter atteinte à une zone Natura 2000 et il ne portera pas atteinte à une zone Natura 2000.
Merci. Une autre question donc de monsieur Jérémy Saudray. Je vous laisse réactiver votre micro. Monsieur Saudray.
Oui, bonsoir, vous m'entendez ?
Très bien.
Jérémy Saudray, habitant à Rezé, entre quartier château et hôtel de ville. Et donc moi, c'est par rapport à l'allongement de la piste. Est-ce que vous prévoyez, alors il y avait une question aussi dans le Slido, est-ce que vous prévoyez de décaler aussi le seuil de décalage nord afin que le virage se fasse un peu plus tôt, en gros au-dessus du périphérique, au lieu d'empiéter sur Rezé, qui est quand même une ville de 40 000 habitants. Parce que, tout à l'heure, vous parliez de la Chevrolière, on va peut-être étudier les trajectoires, mais ce n'est pas des tailles de ville comparables. Or, est-ce que quelque chose va être fait pour éviter de survoler à Rezé et aussi les Couets, parce que c'est collé à Rezé finalement. Voilà. Est-ce qu'il y a un taxiway qui va être fait prolongé au sud aussi?
Merci.
Merci, monsieur. Enfin, je crois que ça rejoint une des questions qui a été posée précédemment sur les trajectoires des avions qui décollent, qui vont vers le nord, soit le nord-ouest, soit le nord-est. Il ne nous a pas paru possible de modifier les trajectoires pour les améliorer par rapport à aujourd'hui. Parce qu'on est en survol de zones qui sont globalement très densément construites et habitées, et que donc ce qu'on ferait, c'est qu'on déplacerait juste les nuisances au-dessus d'autres populations, mais ça n'y aurait pas un impact global positif pris à une échelle plus large. C'est-à-dire que voilà. Donc la seule modification qu'on a identifiée qui nous semblait pouvoir apporter une amélioration, c'est la trajectoire des décollages face au sud en survol de la Chevrolière pour éviter justement le survol de la Chevrolière. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Donc je regrette que ça puisse pas s'améliorer, mais comment dire, la sincérité m'oblige à vous répondre en ces termes.
Merci.
Après, ça, c'est ce qu'on sait faire aujourd'hui. À plus long terme, je réfléchis en même temps que je réponds à monsieur, mais à plus long terme, quand même, on n'exclut pas qu'à l'horizon de 2030, avec les nouvelles technologies de guidage des avions par satellite, on puisse imaginer des trajectoires beaucoup plus, avec des contraintes de conception des trajectoires plus souples qu'elles ne le sont aujourd'hui. Et c'est ce qu'on appelle les fameuses trajectoires courbes. On a d'ailleurs écrit un peu sur ce sujet dans le dossier du maître d'ouvrage dès 2019. Donc peut-être qu'à cette échéance-là, on aura de nouvelles trajectoires qui pourront être plus facilement conçues de façon à vraiment optimiser de manière très fine et éviter certaines zones en survol. Mais aujourd'hui ça ne nous semble pas possible. Voilà.
Merci, monsieur Lacorte. On va reprendre si c'est possible, une salve de questions Slido, puisqu'on n'a plus de mains levées. Alors, dans ces questions, une première question anonyme, le futur CHU sera localisé sous l'approche des accès et théoriquement, il sera survolé à moins de 300 mètres. Est-ce qu'un établissement sanitaire aussi sensible peut être survolé à basse altitude? Autre question de Christelle Mallard. Pour le bruit des avions, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, recommande de réduire les niveaux de bruit moyens au-dessus de 45 décibels. Pour une exposition nocturne, il est recommandé de les maintenir en dessous de 40 décibels. Quels sont vos seuils de décibels pour dire que les zones sont en bruit fort, modéré ou faible? Une question d'André. La loi du délaissement, comment la chiffrez-vous? Facture à l'appui avec dédommagement des préjudices subis ou prix du marché majoré de 30%? Donc plutôt une question sur comment le droit de délaissement est... Enfin, comment derrière ça fonctionne en termes d'estimation financière pour les personnes qui sont éligibles. Une dernière question anonyme. Si en effectuant des prélèvements de suie chez les riverains, vous établissez un rôle avec le trafic aérien, que se passera-t-il? Donc une question qui fait référence à l'étude que vous avez présentée précédemment. Est-ce forcément un résidu de tout avion ou seulement des plus anciens? Voilà. Donc quatre questions assez différentes.
Merci. Je vais les prendre dans l'ordre, si vous voulez bien. Donc, le futur CHU, il sera, c'est un établissement sanitaire, donc, et il sera donc implanté sur l'île de Nantes, qui se retrouvera, comme je l'indiquais, en zone D du futur plan d'exposition au bruit de l'aéroport. Et donc, dans les zones D, la règle d'urbanisme qui s'applique est que toute construction nouvelle est possible, et donc en particulier celle du CHU, à la condition près, et c'est une condition importante, que des mesures de protection contre le bruit aérien soient prises. Et donc ça veut dire en pratique que le bâtiment doit être insonorisé de manière adaptée à la connaissance qu'on a du bruit. Voilà ce que je peux répondre à cette première question. Sur la deuxième question, sur le bruit des avions, quels sont les seuils de décibels pris en compte dans les zones de bruit fort, modéré ou faible? C'est une bonne question parce que en réalité, la réglementation prévoit, enfin permet plusieurs seuils différents sur les délimitations des zones de bruit faible, modéré ou fort. Et si on peut revenir peut-être, Maxime, alors c'est une bien diapositive, c'est juste avant la partie sur la modélisation du trafic, de la modélisation du bruit, pardon. Je ne sais pas où elle est. Ce n'est pas dans les annexes.
C'est un raccourci.
Encore après. Encore après.
J'ai une petite latence. Voilà.
Ah, ils voilà, c'était juste avant.
Désolé, je... voilà.
Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, vous avez pour madame, la... oui, il me semblait que c'était une dame qui posait la question, je me trompe peut-être, la classification réglementaire que nous avons appliquée. Donc la zone de bruit faible, c'est entre 50 et 55 décibels, modéré 55-62, 60... et fort, à très fort, c'est au-delà de 62. Alors ce qui est important de noter, c'est que le code de l'environnement permet d'avoir des seuils un peu différents et de considérer par exemple que la zone de bruit modéré, au lieu de commencer à partir de 55 décibels, elle commencerait à 57 décibels. Et pareil, la zone de bruit fort, il y a la possibilité juridique de considérer qu'au lieu de commencer à 62 décibels, elle commence à 65 décibels. Et donc, en accord avec les élus, et notamment donc Métropole, l'État a considéré qu'il était logique d'assurer les limites de zone qui correspondent à la meilleure protection. Et donc, la limite entre la zone de bruit faible et la zone de bruit modéré que nous avons retenue, elle est bien de 55 décibels et pas de 57. Et de même, pour la zone de bruit fort, elle est bien de 62 et pas de 65. Alors, peut-être plus concrètement là aussi, ces limites de zone, elles correspondent au futur plan d'exposition au bruit, qui est un document qui réglemente la constructibilité là où il y a du bruit. Et donc ça, il existe déjà un plan d'exposition au bruit à Nantes-Atlantique qui sera révisé ultérieurement une fois que le projet sera complètement arrêté et après la déclaration d'utilité publique du projet. Et donc ça permettra donc d'avoir des protections. Donc, comme je l'indiquais, en zone de bruit faible, toute construction nouvelle, elle doit être insonorisée. En zone de bruit modéré, eh bien, on autorise uniquement la construction nouvelle de maisons individuelles, de logements individuels, mais pas d'habitat collectif pour éviter d'exposer de nouvelles populations en nombre important au bruit. Et en zone de bruit fort, à très fort, là, la règle qui prévaut, c'est l'interdiction, c'est le principe général de toute construction d'habitations nouvelles. Il y a des exceptions pour des constructions nouvelles liées à des obligations de service public, par exemple, voilà. Ou à certaines installations nécessaires à l'activité agricole. Enfin, le principe général en zone de bruit fort est donc l'interdiction de construction nouvelle. Voilà ce que je peux dire pour répondre à la question de madame. Alors ensuite, sur la loi du délaissement, oui. Comment fonctionne le délaissement? Comment sont évalués comment est évalué le prix de rachat? Eh bien, alors, c'est une méthode qui est un peu compliquée. Je vais essayer de vous l'expliquer simplement, mais pour résumer, on a un ensemble de prix de référence qui correspondent on a une zone de référence qui correspond à la typologie du bâti, la typologie urbaine qu'on observe autour de Nantes-Atlantique. Cette zone-là, elle est très éloignée de l'aéroport et elle permet donc d'avoir une idée du marché. D'un marché, donc des prix de marché en dehors de l'influence de l'aéroport. Donc on regarde l'évolution des prix sur cette zone-là, on la compare avec les prix qui sont observés et leur évolution autour de Nantes-Atlantique, et par ce système de comparaison, on peut avoir au cas par cas des estimations de la valeur des biens, et ça permet de compenser l'éventuelle dépréciation du bien liée à la proximité de l'aéroport et à l'effet du bruit. Alors après, ce qui il n'y a pas de règle, comment dire, générale. Je ne peux pas vous dire il y a une plus enfin il y a une différence de 30, une majoration de 30% comme par exemple c'est indiqué dans la question, justement parce que ce que feront les services de la Direction générale des finances publiques, c'est bien d'évaluer la situation particulière de chaque bien en fonction de ses caractéristiques, de la qualité du, enfin toutes les caractéristiques du bien qui sont qui conduisent à établir sa valeur de marché. Et pour résumer, ce bien-là sera évalué comme s'il était loin de l'aéroport, et on regarde quelle serait sa valeur. Si elle est plus haute, eh bien, c'est celle-ci qu'on à cette valeur-là que l'État rachète le bien et pas à la valeur de marché correspondant au bien autour de l'aéroport. Je ne sais pas si c'est clair. Ensuite, si en effectuant des prélèvements de suie chez les riverains, vous établissez un lien avec le trafic aérien, que se passera-t-il ? Je ne sais pas vous le dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, on n'en est pas encore à ce stade-là. Évidemment, en fonction de ce qui aura été observé et constaté, et du lien de causalité qui, le cas échéant, aura été établi entre activité aérienne et dépôt de suie, eh bien, à ce moment-là, il faudra certainement que l'État revienne devant les parties prenantes et puis explique comment il tient compte de cette réalité qui aura été mise en évidence. Mais aujourd'hui, on n'en est pas là. Moi, je ne sais pas répondre à cette question. Mais en tout cas, c'est clair que c'est une question qui, potentiellement, est devant nous tous. Est-ce forcément un résidu de tout avion ou seulement des plus anciens ? Là, c'est pareil. Je pense que c'est une bonne question aussi, mais je ne sais pas y répondre, puisque là, ça nécessiterait déjà d'établir un lien entre ces résidus et l'activité aérienne. Et ensuite, il faudrait être capable aussi, en fonction, j'imagine, des caractéristiques chimiques du résidu, d'arriver à établir un lien entre ces résidus et la génération d'avions. Ce qui, là aussi, est peut-être possible, je n'en sais rien, mais qui nécessite des études scientifiques. Moi, je ne suis pas du tout aujourd'hui compétent pour me prononcer sur ces sujets-là. Voilà ce que je peux vous dire.
Merci, monsieur Lacorte. Je pense qu'on a à peu près fait le tour. Il reste beaucoup de questions. Juste peut-être une dernière, puisque c'est une réaction à une question qui avait été posée et peut-être une précision. La question qui avait été posée par monsieur Saudrel, et la question revient souvent, surtout sur cette question des décollages. On parle souvent du décalage du seuil de piste pour les atterrissages. Et une dame demande justement, et il me semble que c'était aussi la philosophie de la question de monsieur Saudrel, est-ce qu'il est prévu aussi de décaler le seuil de pour les décollages, donc de départ des avions, et de là où on va dire, je parle avec des mots profanes, ils arrêtent de toucher, ils s'envolent et ils arrêtent de toucher terre, pour justement permettre des trajectoires, comme le disait M. Saudrel, en survol, par exemple, du périphérique et non pas de la ville de Rosay.
Ah oui, alors ça n'est pas possible pour d'autres raisons. C'est-à-dire que au décollage, on a besoin d'une longueur de piste qui est à peu près 2900 mètres. Je parle sous le contrôle de mes collègues de la DESAC. Ce qui fait que, la piste, aujourd'hui, elle fait 2900 mètres. Donc, on ne peut pas décaler les seuils de décollage, sauf à tout décaler davantage vers le sud, ce qui n'est pas du tout envisageable. Voilà ce que je peux dire concrètement à cette réponse, à cette question. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, Maxime ?
Non, on n'a plus de main levée. On a encore des questions, Slido, mais je vous propose peut-être qu'on passe à la conclusion. L'ensemble des réponses, comme je l'ai déjà dit, seront l'ensemble des questions qui ont été posées auront une réponse par écrit sur le site du réaménagement de l'aéroport. Et ensuite, de toute façon, vous allez y venir, monsieur Lacorte, mais ce n'est pas la fin des échanges et il est possible sur le site internet de continuer à poser des questions. Je vous laisse donc la main pour la conclusion, monsieur Lacorte, avec monsieur Attapi.
Merci. Oui, en quelques mots de conclusion, Peut-être on peut avancer sur la diapositive suivante. Voilà, vous avez ici un état des 31 engagements, enfin des 31 mesures que l'État a prises. Donc en termes de protection de la population et de l'environnement, de réaménagement, de gouvernance et de transparence du projet. Sur l'ensemble de toutes ces mesures, il y en a deux qui sont légèrement décalées par rapport à ce que nous avions prévu. Le couvre-feu, on avait dit un couvre-feu fin 2021, et donc bon, ce sera en mars prochain. En revanche, la mise en œuvre de la double approche, donc c'est ce qui apparaît, la mesure 17, elle est un peu décalée puisque, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, elle pourra être en service à l'été 2023. Hormis cela, l'ensemble des engagements que nous avons pris sont tous soit réalisés, soit avancent globalement selon le calendrier que nous avions annoncé. Et donc, voilà, c'est plutôt un résultat qui mérite d'être souligné, compte tenu en particulier de la période de crise sanitaire que nous avons tous traversée et qui, de la même manière que pour d'autres entités, pour les services de l'État, c'est traduite par une désorganisation du travail. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on souhaite vous dire, c'est que malgré tout cela, on fait ce qu'on a dit et on dit ce qu'on fait. Pour la suite, quelles sont les prochaines grandes étapes ? Vous avez ici une frise chronologique du projet avec ce que nous prévoyons, donc c'est l'entrée en vigueur du nouveau contrat de concession à l'été prochain et autour de 2024-2025 peut-être. En tout cas, cette échéance pour l'instant reste à préciser en fonction de l'appel d'offres, mais la déclaration d'utilité publique des travaux de réaménagement, ce qui permettra ensuite de lancer la phase concrète de travaux du réaménagement global de l'aéroport. Alors peut-être, si vous voulez bien, je vais passer la parole à mon collègue Thierry Latapy sur l'observatoire qu'on a évoqué très rapidement tout à l'heure.
Oui, bonsoir à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Effectivement, hein, ça a été évoqué tout à l'heure. C'est dans la ligne droite, je dirais, de ces réunions publiques. Et c'est aussi suite à la concertation de 2019, où il avait été fait le constat que beaucoup de données existaient sur le territoire, des données issues du concessionnaire, des données issues de l'administration, mais aussi des opérateurs publics ou privés autour de cet aéroport, et qu'il semblait important qu'elles puissent être mises à disposition sur un site, que ces données, avant d'être mises à disposition, elles soient vérifiées, objectivées, et qu'elles puissent être mises en ligne tout au long, je dirais, de l'année et surtout de la vie du projet. Parce que ce qui semblait important, et ce qui semble toujours important, c'est que les indicateurs qui sont développés dans cet observatoire puissent être suivis dans le temps. Donc, en tout cas, c'est l'ambition de cet observatoire. Hein, donc, il est en ligne, hein, il est déjà en ligne sur le site otana.fr. Certaines données sont mises en continu, hein, elles sont mises à jour en continu, elles renvoient sur des sites, et puis d'autres données sont mises à jour annuellement. Et là, il y a une nouvelle mise à jour hein, qui est effectuée en ce moment, sachant bien sûr que suite à la crise sanitaire, bien sûr, elles sont mises à jour, mais elles seront en fonction de la reprise hein, du trafic et de l'évolution du trafic. Elles seront bien sûr sur plusieurs années. On verra comme ça l'évolution. En tout cas, je vous invite hein, vraiment dans la suite de ces réunions publiques hein, qui ont pour objet effectivement de partager l'information, d'aller sur le site otana.fr.
Merci Thierry. Peut-être aussi pour proposer une synthèse des moyens d'information et comment aussi poser vos questions au maître d'ouvrage à la DGAC, pour comprendre le projet et nous poser une question. Eh bien, vous pouvez vous rendre directement sur le site internet du projet où vous avez une foire aux questions et puis aussi la possibilité de poser directement une question. Alors là, compte tenu des réunions publiques, on est un peu en retard dans le traitement des réponses qu'on a reçues, mais en général, on répond sous une dizaine de jours aux questions qui nous sont posées via le site Internet. Voilà, et comme l'indiquait tout à l'heure M. Datapi, vous avez aussi le site de l'Observatoire territorial qui comporte de nombreuses informations. Pour suivre l'actualité du projet, vous avez la possibilité, là aussi, via le site Internet du projet, de vous abonner à notre newsletter. Cette newsletter, c'est une façon d'être informé sur le projet. On ne fait pas de la publicité, si vous me passez l'expression, ce ne sont pas des réclames, mais c'est vraiment les points d'étape du projet, les réunions publiques, les réunions d'information, les études qu'on met en ligne, et vous en êtes informé directement grâce à cette newsletter. Et on a aujourd'hui plus de 1400 abonnés, donc ça fonctionne plutôt bien. Et puis, bien sûr, les points d'étape se font à l'occasion de cycles de réunions publiques et nous aurons très certainement un nouveau cycle de réunions publiques qui sera organisé en 2022 pour faire donc un point d'étape. Et enfin, pour bénéficier des aides, on en a longuement parlé tout à l'heure, il y a eu des questions dessus. Mon collègue de la préfecture, Jean-Philippe Aubry, aussi vous a expliqué comment vous pouviez déposer votre dossier. Vous pouvez donc aussi contacter directement le GIP via l'adresse mail qui est indiquée à l'écran. Vous avez aussi toute l'information et les formulaires de demande en ligne sur le site internet du projet réaménagement-nantes-atlantique.fr. Voilà ce qu'on pouvait vous dire en termes d'informations.